Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Portemonnaie. Aujourd'hui, je reçois le chroniqueur et essayiste Mathieu Bock-Côté pour compléter notre réflexion sur l'immigration. Dans notre première partie sur l'immigration, le constat économique était le suivant. Dans notre système actuel, l'immigration est un ingrédient parmi d'autres qui permet, à travers le flux de main-d'œuvre et la diversité qu'il apporte, aux économies de bien se porter. Mais l'immigration est plus qu'un fait économique, plus qu'un chiffre. Les immigrants sont des personnes, des familles qui quittent ou parfois sont forcées de quitter leur pays de naissance, leur culture, leurs coutumes, leurs repères, pour aller ailleurs, trouver une autre qualité de vie, un emploi et vivre simplement. En même temps, ils n'arrivent pas nulle part dans des villes sans histoire et sans culture dans lesquelles ils pourraient réimprimer, redessiner, reprendre comme si de rien n'était leur vie d'avant. Leur terre d'accueil est une terre de naissance pour d'autres qu'ils rencontrent pour la première fois et avec lesquels il faut s'entendre et dialoguer, se mêler pour créer une continuité sociale, un réel ensemble qui ne soit pas qu'un slogan, ce fameux vivre ensemble qui étouffe la réalité par son abstraction. Alors l'immigration doit être intégrée ou doit s'intégrer pour permettre à toute la société de fonctionner. Quels sont les différents modèles d'intégration? Quelle est la situation au Québec? On en parle sans filtre avec Mathieu Bock-Côté. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on rentre dans les débats d'immigration, il y a toujours ce sujet qui revient. L'immigration est-elle un phénomène naturel?
Tout dépend ce qu'on entend par là, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire la plus longue, les mouvements migratoires vont marquer l'histoire de la planète, mais plus l'ordre politique se consolide, plus les ordres politiques se stabilisent, avec des frontières, se développent sur le plan bureaucratique, politique, symbolique et ainsi de suite, l'immigration est de plus en plus maîtrisée, d'autant qu'il y a une forme de sédentarisation des populations à l'échelle de l'histoire, qui est aussi un autre phénomène qu'il faut noter. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'immigration puisse être pensée comme un phénomène naturel qu'il faudrait simplement réguler. Il y a une dimension explicitement politique à dans l'immigration aujourd'hui, je crois. Certains pays sont à la recherche de seuils d'immigration élevés, c'est le cas du Canada, par exemple. D'autres pays n'en veulent pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout. Pensez au Japon, par exemple. Et bien des pays subissent l'immigration un peu à la manière d'une fatalité. Quelquefois, tout le moins, il y a différentes catégories sociales, hein, c'est-à-dire certains s'en réjouissent, d'autres s'en désolent. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'immigration est vécue comme une forme de fatalité inquiétante dans les pays occidentaux, comme si le phénomène nous avait inquiétés. Je parle d'immigration massive, je parle pas de l'immigration à petit régime, mais l'immigration massive telle qu'on la voit aujourd'hui, le sentiment est qu'elle a échappé en fait à notre maîtrise. Et là, aujourd'hui, il y a différentes tentatives d'une manière ou de l'autre, de restaurer une maîtrise des flux migratoires. Ça peut être quelquefois de manière assez brutale, c'est le mur de Donald Trump, mais c'est aussi une volonté quelquefois d'avoir une meilleure maîtrise sur justement les seuils d'immigration. On le voit au Québec de manière plus que raisonnable, hein, de vouloir descendre de 50 000 à 40 000. On le voit aussi en Europe, en se demandant dans quelle mesure aujourd'hui assistons-nous à un détournement à grande échelle, comme je le crois, du droit d'asile qui avait été pensé pour accueillir des gens, non pas dans des quantités astronomiques comme aujourd'hui. Donc le droit d'asile tel qu'il avait été pensé est-il adapté au grand mouvement migratoire d'aujourd'hui? On se demande aussi dans quelle mesure l'état social tel qu'il existe un peu partout en Europe est une forme de pompe aspirante qui favorise une immigration massive dans les pays européens. Donc je pense qu'il nous faut redécouvrir aujourd'hui l'immigration comme un phénomène politique sur lequel on peut avoir une emprise pour peu qu'on redonne du pouvoir au pouvoir public, justement, ce qui est peut-être pas le cas dans une société qu'on cherche davantage à réguler par le droit, par les médias, par la morale, plutôt que par le politique.
Et par le marché.
Par le marché, naturellement, ça va de soi. Vous avez tout à fait raison de l'ajouter. Et de ce point de vue, je pense que le politique est l'instance manquante. Et voilà pourquoi une bonne partie des mouvements qu'on appelle, à tort ou à raison, populistes dans les pays occidentaux, carburent fondamentalement à sa prétention suivante, nous pouvons reprendre le contrôle du phénomène. Ensuite, on peut considérer qu'il faut mener une mauvaise politique qui pratique la démagogie, mais il carbure sur une attente populaire qui est la suivante, il est possible de reprendre en main politiquement le phénomène migratoire.
À partir du moment où on considère qu'on peut reprendre en main le phénomène migratoire, quels sont les différents modèles d'intégration qu'on peut mettre en place dans les politiques publiques?
Alors, ça dépend. On connaît les grands. Il y a le melting pot américain qui ne consistait pas, contrairement à ce qu'on a dit souvent, à créer un homme américain à partir de rien. Il y avait le noyau WASP dans le pays et jusqu'à assez tardivement, c'était ce noyau culturel, identitaire, qui était le noyau à partir duquel s'assimilaient les vagues d'immigrants. Donc, mais il y a appelé ça le melting pot américain. Il y a évidemment le multiculturalisme canadien qui sacralise la diversité et qui conteste l'idée même d'une culture d'accueil ou d'une société d'accueil ou d'un peuple d'accueil. Le multiculturalisme canadien qui s'est radicalisé au fil des décennies. C'est-à-dire, fondamentalement, à l'origine, c'est une politique de négation et de gestion de la réalité québécoise, mais c'était une politique destinée à neutraliser le Québec. Et avec le temps, c'est devenu une forme d'idéologie d'État et presque de religion d'État au Canada. C'est-à-dire, il n'y a pas de culture de référence, nous n'avons en commun que nos droits et notre diversité. Ce qui pousse aujourd'hui, de manière assez marquée, on le voit avec la question du NICAB, par exemple, dans la politique fédérale, le NICAB est devenu, depuis 2015, un peu le symbole de l'ouverture à la diversité du Canada, parce qu'on a besoin d'aller toujours plus loin dans l'ouverture à l'autre. Donc ça, l'autre absolu, c'est la figure du NICAB dans nos sociétés. Donc la politique canadienne a intégré ce symbole à la manière d'une preuve de sa propre supériorité morale. Vous pouvez penser au Québec là-dessus, mais moi je crois plus ou moins à l'interculturalisme québécois. L'interculturalisme québécois, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de culture de convergence, auquel pensait Fernand Dumont par exemple, qui est soumis ensuite au multiculturalisme canadien et qui cherche à s'adapter à des contraintes extérieures. Mais les Québécois, par eux-mêmes, je crois, sont assez portés par une forme d'intégration substantielle, une intégration nationale plus française qu'américaine, pour le dire ainsi. Il y a nos amis français, évidemment, c'est le modèle de l'État-nation républicain, avec cette idée que les immigrés doivent assimilé à la culture française, mais aussi à la prétention à l'universel de la France. Et cela dit, ce modèle a longtemps très bien fonctionné. Je vous donne un dernier modèle pour ensuite revenir sur la France. Ensuite, il y a aussi le modèle, d'appelons ça, c'est moins un modèle que les petites nations d'Europe de l'Est, qui, elles, sont attachées à une définition beaucoup plus historico-culturelle de la nation plutôt qu'à prétention universaliste. Qu'est-ce qui se passe, cela dit, avec la France? On dit aujourd'hui, c'est un modèle, la laïcité a échoué en France. Il faut relativiser cette affirmation. La laïcité a d'abord été pensée en France, non pas pour gérer les populations musulmanes qui sont arrivées depuis quelques décennies, mais d'abord les catholiques. Faut pas l'oublier. 1905, c'est les catholiques. On peut dire que la France de l'époque, du début du 20e, a fait preuve à l'endroit des catholiques d'une, appelons ça, d'une fermeté politique et idéologique, et plus d'une fermeté tout court, quelquefois, dont elle n'a jamais osé faire preuve ensuite avec les populations issues de l'immigration. Donc, la question, c'est que la laïcité n'a pas été pensée à l'origine comme un modèle d'intégration en France. On l'a ensuite pensée comme telle à partir de la fin des années 80 et début des années 90. Elle a rempli une partie de sa mission, mais ce qui frappe la France et d'autres pays occidentaux, c'est la question ensuite de la quantité. Monsieur Parizeau, Jacques Parizeau, disait ici, ça existe la notion de trop. Alors, à partir d'un certain, je dirais, l'importance des seuils migratoires, des mouvements immigratoires, quel que soit le modèle d'intégration que vous avez, il ne fonctionne plus. Il ne peut fonctionner qu'à partir de des afflux régulés, maîtrisés, raisonnables. Si ensuite, vous n'avez plus de contrôle sur ça, vous avez beau avoir le modèle le plus exigeant, même coercitif, il sera tout simplement impuissant. De ce point de vue, ça nous ramène à ce que disait Michel Brunet, l'historien québécois, que trois facteurs pèsent dans l'histoire, le nombre et le nombre.
On a posé un peu cet aspect théorique des choses, mais aujourd'hui, on est dans un modèle capitaliste, néolibéral, fondé sur le marché et sur les libre-échanges. De ces modèles d'intégration-là, est-ce que finalement, c'est pas le multiculturalisme qui fonctionne le mieux avec notre capitalisme néolibéral?
Alors, premièrement, il y aurait certainement une remise en question à faire des excès du capitalisme néolibéral mondialisé tel qu'on le vit aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste aux limites de ce modèle, parce que comment fonctionne le capitalisme tel contemporain mondialisé? Il ne voit plus de peuple, il ne voit plus de nation. Il voit seulement des populations interchangeables qu'il peut déplacer selon son gré, selon ses désirs, pour les ajuster en fonction des exigences du capital. Donc, je suis pas un anticapitaliste, mais il est certain qu'il faut restaurer la part manquante de cette économie qui est le politique. Et le politique se situe à l'échelle nationale, aussi à l'échelle, par exemple, européenne, mais l'échelon national demeure l'échelon politique fondamental. Ensuite, pour ce qui est du multiculturalisme, s'il fonctionne, j'en suis pas certain. Je sais que les deux savent s'accoupler. Mais je pense qu'il y a deux dynamiques qu'il faut mentionner quand on parle de l'immigration, de ce qui pousse aujourd'hui à l'immigration massive. Il y a d'un côté, vous avez raison, le capitalisme, qui justement dénationalise les peuples, désubstantialise les identités, tend à réduire les individus au statut de ressources humaines et veut les rendre les plus adaptables possibles à un monde toujours en mouvement, donc veut les déraciner. Parce que par définition, un homme enraciné, indélocalisable, attaché à son pays, à ses mœurs, à ses et coutumes, c'est plus facile ensuite de le transformer selon les exigences toujours renouvelées du capital. Mais il y a une autre dimension qu'il faut mentionner, ce sont les lobbies idéologiques de la gauche diversitaire qui, eux, pour des raisons non pas économiques, mais idéologiques vraiment, veulent déconstruire les frontières, veulent déconstruire aussi la différence entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas, entre le national et celui qui ne l'est pas. Donc, une forme de gauche idéologique qui est convaincue au fond d'elle-même que la différence entre les nations correspond à une forme d'institutionnalisation du racisme. C'est ce que disait Étienne Balibar, qui est un des théoriciens du néo-antiracisme contemporain. Et pour cette gauche diversitaire, eh bien, les mouvements migratoires doivent être pensés exclusivement sur la catégorie humanitaire. Donc, il n'y a pas de maîtrise politique possible. Toute maîtrise politique de l'immigration est vue comme déshumanisante. Alors, vous voyez, c'est deux logiques qui se fécondent, qui se croisent, qui s'alimentent, la logique économique, la logique humanitaire. Et il n'est pas rare aujourd'hui à prétention humanitaire. Et il n'est pas rare aujourd'hui de voir la droite néolibérale emprunter des arguments de la gauche humanitaire et la gauche humanitaire emprunter des arguments de la droite néolibérale pour justifier plus largement la dynamique immigrationniste. D'ailleurs, on le voit au Québec, où le PLQ parle comme QS, qui parle comme le PLQ. Voilà pourquoi je parle des deux comme de PLQS.
Pour reprendre le fameux UMPS en France.
Non, je vois la référence, mais je pense qu'au Québec, là-dessus, au-delà de ce clin d'œil, je pense qu'à la québécoise, on peut parler de PLQS, c'est-à-dire, dans les faits, de deux parties sur la question identitaire, pas sur la question économique, bien sûr, pas sur la question nationale, mais sur la question migratoire du multiculturalisme. Ces deux parties ont une proximité qu'il faut nommer.
C'est ce que vous appelez, en fait, dans votre livre, Le Nouveau Régime, le parti migrationniste. La convergence entre le néolibéralisme qu'on retrouvait plus au PLQ, puis...
Le multiculturalisme idéologique. Mais il faut dire qu'au PLQ, on trouve aussi ce multiculturalisme par inféodation à l'ordre canadien. Parce qu'au Canada, faut pas l'oublier, il y a cette variable-là, c'est-à-dire, peu importe ce que veut le Québec, c'est Ottawa qui décide dans ces matières en dernière instance. Donc, ça nous rappelle, de ce point de vue, qu'être une nation qui ne maîtrise pas pleinement son destin, c'est pas une bonne chose lorsque vient le temps de vouloir affirmer ses propres choix identitaires collectifs.
Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit tableau de la situation au Québec du point de vue de l'immigration?
Je crois que nous avons perdu la maîtrise du phénomène depuis au moins le début des années 2000, sinon davantage. Le point marquant de ce point de vue, c'est la hausse massive des seuils d'immigration engagés par le Parti libéral à partir de 2003. Le Parti libéral, moi j'aime dire, on dit toujours que l'immigration est une richesse du peut-être, mais c'est surtout une richesse électorale pour le Parti libéral. Parce qu'elle tend à réduire le poids de la majorité historique francophone au Québec. À la relativiser. Et ça entraîne quelquefois une forme de contestation de la légitimité même de la majorité historique francophone comme cœur de la nation. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est cette forme de sécession mentale, morale, idéologique et identitaire entre Montréal et le reste du Québec. C'est-à-dire, d'un côté, Montréal qui se vit comme un nouveau peuple multiculturel, diversitaire et bilingue par rapport au reste du Québec qui serait arriéré, homogène, francophone et ainsi de suite. Et moi, je crois qu'une nation a besoin d'une métropole cosmopolite qui n'est pas simplement un petit village en grande version. Le propre d'une métropole, c'est justement d'être ouverte à une diversité d'influences. Il y a une plus grande diversité d'origine aussi, c'est inévitable dans une métropole. Mais cette métropole doit avoir la conscience de son ancrage national. Or, ici, à cause de la question nationale, justement, Montréal tend à se désaffilier de plus en plus du reste du Québec, aussi parce que son substrat démographique se transforme. Donc, je pense que s'il nous faut aujourd'hui, et je l'ai souvent écrit, réduire significativement les seuils d'immigration et doubler ça d'une politique d'affirmation et d'intégration identitaire forte, c'est pour éviter la partition à grande échelle de Montréal par rapport au reste du Québec. Vous vous rappelez, après le référendum de 95, il y avait les partitionnistes. Les partitionnistes disaient, si on fait l'indépendance du Québec, eh bien, nous, on garde l'Ouest Island et puis on se rattache au Canada à la manière d'une Irlande du Nord. Eh bien, je crains que si demain, il y avait un référendum sur l'indépendance du Québec, j'ai l'impression que le partitionnisme s'emparait de l'île de Montréal dans son ensemble. Et de ce point de vue, il nous faut réintégrer symboliquement et culturellement la métropole dans l'espace national québécois. Ajoutez à ça, il y a la dimension politique, qu'on le veuille ou non. Je pense que le régime canadien a toujours misé sur l'immigration massive à la manière d'un loquet démographique sur l'avenir constitutionnel des Québécois. Monsieur Parizeau, en 1995, a dit de manière très maladroite et très désagréable certaines réalités démographiques par ailleurs incontestables. C'est-à-dire 61% des francophones avaient voté oui, mais 95% des nouveaux arrivants avaient voté non. Les anglophones, 99% pour le non. Résultat, eh bien, il y avait une forme de droit de veto qui s'était constitué sur l'avenir des francophones. Moi, je crois, de ce point de vue, qu'il nous faut une politique d'intégration forte pour faire en sorte, en dernière instance, que les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec s'identifient aux francophones. C'est quoi le signe de l'intégration véritable? C'est pas quand on s'identifie à Montréal et cette diversité. C'est quand on apprend à dire « nous » avec les francophones québécois. L'intégration, elle est réussie quand un nouvel arrivant dit « nous ». Puis je crois que les Québécois francophones, eux-mêmes, sont très ouverts à ceux qui viennent de l'étranger, mais qui envoient un signal, un désir d'intégration à la majorité. Ça, je pense véritablement que quand les nouveaux arrivants envoient un signal, comment ils veulent s'intégrer à la majorité, les Québécois francophones ouvrent les bras, ouvrent le cœur, parce qu'ils savent à partir de là qu'on va se joindre à leur destin. Mais naturellement, quand on a une petite nation de langue et de culture française en Amérique du Nord, il y a une forme d'inquiétude identitaire naturelle, et cette inquiétude, elle s'alimente justement aujourd'hui d'un rapport critique envers des seuils d'immigration qui ne correspondent pas à nos capacités d'intégration.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Moi, mon invité de l'IRIS pour la première partie que j'avais faite sur l'immigration avec Guillaume Hébert, lui dit que l'intégration économique est très efficace au Québec. Que les immigrants aujourd'hui s'intègrent mieux qu'en Ontario. Il y en a 78,9% qui sont actifs, un peu moins que les Québécois de souche, j'utilise ça avec guillemets, et que la maîtrise du français est en constante augmentation. Et en même temps, aujourd'hui au Québec, il y a un problème économique qui est celui de la pénurie de main-d'œuvre. L'une des solutions, qui est la plus considérée entre autres, c'est celle de l'immigration. Les immigrants viendraient pour pallier entre autres à la pénurie de main-d'œuvre tout en ayant eux une meilleure qualité de vie que dans leur pays d'origine. Est-ce que c'est pas logique?
Je crois pas. Je m'explique. Un, l'application de la pénurie de main-d'œuvre s'est relativisée considérablement. Il faut relire de ce point de vue le très beau livre qui commence à dater mais qui demeure très pertinent, Le remède imaginaire de Dubreuil et Marois, 2011 chez Boréal, qui remettait en question, mais en compilant des études économiques là, à la tonne, ce qui est un mythe de la pénurie de main-d'œuvre. Mythe, tout dépend, évidemment. On nous dit, c'était les exemples qu'on nous donne souvent, il manque de gens pour les services, donc des emplois à très petit salaire en région, tout ça. Oui, il y a probablement une pénurie de main-d'œuvre dans les emplois de services à petit salaire ailleurs. Mais ça en dit peut-être davantage sur la qualité des emplois offerts que sur la notion de pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense que c'est une notion qu'il nous faut relativiser considérablement. À partir du moment où les gens sont prêts à payer suffisamment pour les emplois qu'ils offrent, ils vont constater que la pénurie de main-d'œuvre est un phénomène bien moins évident qu'il n'y paraît. Deuxièmement, il va falloir qu'on se décide sur la question de la situation économique des nouveaux arrivants. Soit leur intégration va bien, ce dont on se réjouira, soit on nous dira ensuite que oui, mais leur taux d'emploi est beaucoup plus bas que le reste de la population. Et là, normalement, apparaît l'explication, que je devine l'IRIS n'y serait pas étrangère, c'est oui, mais c'est à cause de la discrimination.
Exactement.
Ah bon, d'accord. Et là, l'explication par la discrimination, alors pour m'y être penché avec beaucoup d'intérêt et avec méfiance, mais sans mauvaise foi, la sociologie antidiscriminatoire, c'est-à-dire le système conceptuel utilisé pour penser la notion de la discrimination me semble terriblement bancal, pour ne pas dire sans fondement sociologique véritable. Donc moi, évidemment qu'il y a des cas de discrimination, ça peut arriver, mais la notion de discrimination systémique ou de système discriminatoire qui est à laquelle on fait appel pour expliquer toute forme de difficulté d'intégration, notamment à l'emploi, ça me semble être tout à fait bancal et fragile comme explication. Dernier élément, il y a la question donc du rapport à la qualité du français, tout ça. Comme je dis, c'est pas la question d'être pour ou contre l'immigration en soi. La question est de savoir quelles sont nos capacités d'intégration. Puis je pense que le désaccord avec l'IRIS serait là. C'est que je crois que l'IRIS et d'autres, une des exigences d'intégration beaucoup moins élevées que celle de l'immense majorité des Québécois francophones. C'est-à-dire, que veut dire s'intégrer au Québec? Si ça veut dire simplement s'intégrer de manière minimaliste au marché du travail et respecter les lois, bah, ok, d'accord. Mais si on pense que l'intégration, c'est un peu plus que ça, puis ça vient qu'une forme d'adhésion symbolique et identitaire en dernière instance au ce qu'on appelle le peuple québécois, ben là, il se peut que l'IRIS soit en décalage majeur avec les attentes ordinaires de l'immense majorité des Québécois pour qui l'intégration, ça veut dire un peu plus que ça.
OK, mais c'est quoi alors ces critères symboliques d'appartenance à l'identité québécoise?
Alors, sur le plan juridique, il faut distinguer le juridique du symbolique.
Tout à fait.
Sur le plan juridique, moi, je crois qu'en dernière instance, l'intégration, mais ça, je ne vous reprendrai pas, ne fonctionnera véritablement quand on sera un pays souverain. Parce que les immigrés qui arrivent ici arrivent non pas au Québec, ils arrivent au Canada. Ils arrivent non pas dans un pays francophone, mais dans un pays bilingue. Ils arrivent dans une société, dans un continent où l'anglais est la norme. Allez leur expliquer ensuite que l'étrange petit peuple qui habite là est persuadé qu'ici, ça doit se faire en français, que de son point de vue, on est Québécois avant d'être Canadien, mais quand il y a eu le temps de faire un référendum, on l'a perdu deux fois, même si 60% des francophones ont voté oui la dernière fois. C'est pas si simple que ça pour les nouveaux arrivants. Le cadre symbolique et politique dans lequel ils arrivent doit être d'une confusion immense. Et là, ensuite, il y a différentes catégories de population qui s'intègrent davantage aux francophones, d'autres aux anglophones, pour toute une série de facteurs. Donc, ayons ça en toile de fond. Je suis convaincu que c'est le jour où le Québec va être un État indépendant, l'intégration va bien mieux se passer, parce que là, il y aura au moins une clarté d'où on arrive. Ajouter à ça une autre dimension qui est essentielle, c'est que tant qu'on n'est pas indépendant, la société québécoise peut au moins, dans la mesure du possible, se doter d'un cadre d'intégration symbolique qui la singularise le plus possible par rapport au reste du Canada. Laïcité, langue française, histoire. L'histoire est fondamentale. À quelle histoire appartient-on, hein? C'est ainsi qu'on s'inscrit dans un peuple fondamentalement. À quel nous s'identifie-t-on?
Finalement, est-ce que c'est pas revenir à l'assimilation française? Est-ce que c'est pas un
modèle? Moi, je fais pas partie de ceux qui se scandalisent l'assimilation à la française, mais au Québec, j'appelle ça la convergence. En fait, on a par ailleurs notre propre histoire et nos propres concepts. Et ce concept au Québec, qui n'est pas l'assimilation à la française pour différentes raisons, c'est la convergence culturelle. Que les Français soient pour l'assimilation à la française, je trouve ça tout à fait normal. Mais chaque peuple trouve son propre langage. Donc, les immigrés ont pour vocation de prendre le pli de la majorité historique francophone. Donc, sur le plan juridique, je ne serais pas contre la création d'une citoyenneté québécoise. Il va falloir aussi que la majorité francophone clarifie ses attentes symboliques à l'endroit des nouveaux arrivants, et tout le débat de la laïcité aujourd'hui, je pense, correspond à ça. C'est-à-dire, on veut envoyer un signal que quand on arrive ici, ça implique une forme d'adhésion qui implique une sortie quelquefois des communautarismes auxquels on est attaché. Sur le plan symbolique, en dernière instance, mais ça, on a évidemment qu'on peut pas contrôler les cœurs et les âmes, et heureusement, nous sommes dans une société libérale qui permet aux gens quand même de vivre comme ils veulent. Mais sur le plan symbolique, je pense que le parachèvement de l'intégration, c'est lorsque un nouvel arrivant en vient à s'identifier, dit « nous les Québécois », et lorsqu'il s'identifie. Et ça, je vous donnais un exemple, moi qui m'a toujours amusé, mais qui correspond vraiment à ma lecture de la chose. Il y a fait très longtemps, j'étais militant au Parti québécois, et une dame d'origine argentine, je crois, nous parlait d'un Américain qu'elle avait croisé. Et elle parle de cet Américain qui est un Italien, probablement arrivé à l'âge de 15 ans aux États-Unis. Et puis elle lui dit, quand George Washington a chassé les Anglais, là, on était capable véritablement d'affirmer notre destin américain. Et là, je trouve ça magnifique, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nouvel arrivant, qui peut conserver sa mémoire familiale, évidemment qu'il peut conserver sa mémoire familiale, néanmoins, il doit s'approprier la mémoire collective du peuple qu'il rejoint. Et ça, je crois que c'est toute l'importance, A, de l'école, mais B, d'une politique de commémoration forte dans l'espace public, et C, d'une affirmation décomplexée de l'identité nationale. Je pense que c'est possible. Moi, je suis anti-racialiste. Je déteste cette idée de racialisation des appartenances. Les êtres humains ne sont pas divisés en espèces, ils sont divisés en peuples et en cultures et en civilisations. Et il est tout à fait possible que quelqu'un qui vienne du Pakistan, de l'Algérie, des Indes, de l'Amérique du Sud, qu'importe, puisse devenir Québécois comme vous, comme moi, sans problème. Pourquoi? Parce qu'il y aura une intégration symbolique et culturelle forte. Mais aujourd'hui, le multiculturalisme, et c'est ça qui est toxique avec le multiculturalisme, il nous dit non, il n'y a pas de culture commune, il ramène toujours à l'origine, il enferme dans l'origine, il dit non, définissez-vous pas par ce que vous avez en commun, par la culture en commun, définissez-vous par vos origines en toutes circonstances. Eh bien, cette espèce de fragmentation à l'infini qui mise sur les origines et qui fonctionne sur une logique de racialisation en dernière instance, on nous dira au Québec, par exemple, d'une majorité blanche. Moi, quand j'entends ça, je deviens fou. Une majorité blanche, sont-ils au courant, ceux qui disent cela, de ce qu'est l'histoire du Québec? À ce que j'en sais, les anglophones n'ont ressenti une forme de fraternité raciale exagérée à l'endroit des francophones québécois quand venait le temps de les opprimer pendant une bonne partie de l'histoire. La notion de race est une notion toxique qu'il faut congédier de l'espace public le plus possible. Il faut réhabiliter les notions de culture, d'identité, de peuple, de nation. Et de ce point de vue, je le redis, n'importe qui peut devenir Québécois. Ensuite, de ce point de vue, faut-il que les Québécois eux-mêmes aient une manière d'affirmer leur culture qui soit forte et convaincante.
Je vais revenir un peu à l'économie et un peu à la vision libérale des choses. J'ai contacté un professeur d'économie qui s'appelle Vincent Gelosso, qui est de l'Institut économique de Montréal. Et voici ce qu'il dit par rapport à l'immigration.
La meilleure chose que nous, on peut faire comme étrangers pour eux, c'est de les laisser venir où est-ce que les employeurs valorisent le plus leur travail, donc augmentent leurs revenus.
Ce que dit Vincent Gelosso, c'est que nous, en tout cas au Québec, La meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'accueillir les gens qui ont une valeur économique pour nous et qui seront plus valorisés d'un point de vue du revenu qu'ils ne le sont dans leur terre d'origine.
Bah alors, traduisons ça sur le plan politique. Si le souci, c'est d'avoir des immigrants qui sont pas compatibles, j'aime pas le mot, mais qui s'intégreraient plus naturellement au marché du travail dans lequel on est parce que leurs compétences correspondent à des attentes particulières dans des niches particulières de l'économie. Et je parle pas ici justement de du cheap labor, là. Je parle dans une niche particulière d'économie. Ça fait partie des critères dont on doit tenir compte dans la sélection de l'immigration. À partir du moment où on décide d'avoir une politique d'immigration active, aussi bien choisir des immigrants que l'on croit capables de s'intégrer facilement. Et là, de ce point de vue, les critères sont nombreux, ils sont linguistiques, ils sont culturels, ils sont économiques, et on pourrait les multiplier, mais je vois pas pourquoi le critère économique serait à proscrire dans de telles circonstances.
Ma dernière question, après avoir entendu tout ce que vous m'avez dit là et après notre entretien, j'ai l'impression que les immigrants sont pris un peu dans un étau entre les libéraux, les antilibéraux, le peuple québécois que vous décrivez, l'identité québécoise, leur identité d'origine, et ils viennent un peu dans une sorte de clair-obscur, pour reprendre un peu Gramsci. On leur dit, voilà la manière dont il faut s'intégrer, c'est nous qui vous avons amené, le Canada, et ils se retrouvent face à des tensions avec un peuple qui finalement, avec lequel ils voudraient fraterniser, mais qui, à cause de frictions historiques, finalement parfois les rejettent.
Vous savez, là où je suis d'accord avec vous, mais je serai en désaccord sur la deuxième partie, c'est que, oui, c'est compliqué. Notre confusion sur le plan symbolique identitaire qui est liée à notre appartenance à une fédération qui nous nie, un pays qui dit qu'on n'existe pas. Les Québécois sont persuadés d'être un peuple et une nation, et du point de vue canadien, nous ne sommes qu'une ethnie parmi d'autres dans une fédération plurielle, et lorsqu'on affirme le fait qu'on est un peuple, le Canada voit ça comme une forme de suprémacisme ethnique, non, de suprémacisme blanc même. C'est tout dire, là. Alors, notre existence en tant que telle est un scandale moral pour le Canada. Alors, l'immigrant qui arrive ici, puis qui n'est pas au courant de tout ça, puis qui n'est pas familier avec tout ça, il se demande « Mais où est-ce que je viens d'arriver? » Puis le réflexe naturel et comment leur en vouloir, ça serait de s'aligner sur le modèle le plus fort. C'est-à-dire, en gros, en Amérique du Nord, c'est l'anglais. En gros, même puis à Montréal, ben la légitimité du multiculturalisme dans le discours public fait en sorte qu'on peut croire que ben, tel est le modèle auquel on va s'intégrer. Donc ça, je pense que oui, c'est compliqué pour tout le monde. L'État fédéral a utilisé historiquement l'immigration pour diluer, pour noyer les Québécois francophones. C'est un fait historique, donc on doit en tenir compte. De l'autre côté, est-ce que les Québécois francophones doivent se fermer, comme on dit, à l'immigration? Bien sûr que non, je pense pas. La question est de savoir dans quelle proportion on est capable de les intégrer efficacement. Je pense que ça correspond pas du tout au seuil d'aujourd'hui qui me semble démesuré. À 50 000, c'est insensé. 40 000, c'est encore trop. Il faudrait quand même ramener ça de manière sérieuse beaucoup plus bas.
Par exemple, est-ce que vous avez
un chiffre? Il n'y a pas de chiffre idéal, mais mon critère est souvent, c'est-à-dire, il faudrait avoir comme point de départ comment c'était en 2003 quand il y a eu l'espèce de hausse démesurée des libéraux. C'était un peu en haut de 30 000. Je pense qu'on pourrait ramener ça à des seuils autour. Je lisais un livre récemment qu'on nous proposait autour de 26 000, 27 000. Apparemment que ça correspondrait davantage aux capacités d'intégration qui sont les nôtres. Bon, okay. C'est une possibilité. Ce que j'entends, c'est que pour moi, il n'y a pas de scandale moral au fait de descendre dans de telles proportions. Une fois que c'est dit, est-ce que les Québécois rejettent les immigrants? Je ne crois pas. Franchement, il y a des idiots partout sur la planète. Il y a des racistes partout sur la planète. On a notre proportion de zozo. Il y a des racistes au Québec comme à Madagascar. Il y a des racistes au Japon comme il y en a au Venezuela. Partout sur Terre, il y a une proportion d'individus qui sont allergiques à la présence de l'altérité. Je crois pas que ce courant soit dominant au Québec. Même pas du tout. Je pense pas qu'il soit dominant. Les Québécois, cela dit, ont des attentes d'intégration plus élevés, parce qu'ils savent que c'est leur existence comme peuple qui est en question. Alors, je ne crois pas que c'est raciste d'exiger, par exemple, que le français soit la langue commune. Je ne pense pas que c'est un refus des immigrés que d'exiger qu'ils apprennent à dire « nous » avec la majorité francophone. Je ne pense pas que c'est un refus des immigrés que de s'inquiéter qu'ils votent quelquefois dans une proportion soviétique pour le Parti libéral et le fédéralisme canadien. Je ne pense pas que tout ça relève du refus de l'autre. Je pense même que ça témoigne inversement d'une attente déçue. C'est-à-dire, on aimerait donc ça qu'ils nous rejoignent, on aimerait donc ça qu'ils prennent la main tendue. Mais je dis pas qu'il y a pas, comme dit, d'extrême chez nous, mais il me semble assez marginaux. Puis moi, je vous inviterais, mais ça sera, je renverserai votre question. Peut-être y a-t-il aussi chez certaines communautés, pas de manière majoritaire, mais chez certaines communautés, peut-être y a-t-il aussi un rejet quelquefois des Québécois francophones. Comme si on est vu comme la population résiduelle, le vieux peuple appelé à se transformer sous la pression migratoire, ce vieux peuple appelé à se diluer archaïque, homogène, résiduel. Quelquefois, moi, je l'ai vu dans dans la querelle de Slaves, notamment. Rappelez-vous, l'été passé, certaines populations issues de l'immigration plaquaient sur notre histoire des concepts issus de l'histoire américaine, comme si le Québec n'avait pas sa propre histoire, comme s'il n'avait pas sa propre culture. On sentait qu'il n'y avait aucun intérêt pour la culture québécoise, pour la langue française, pour l'identité québécoise, comme si, finalement, nous étions trop chez nous. Et moi, ça, je vous avouerai, j'aime pas ça. Donc, autant je condamnerais sans la moindre gêne des discours racistes ou xénophobes québécois, autant que cela dit, je pense que les Québécois n'ont pas là-dedans le monopole du mal et les immigrés le monopole du bien. Non plus que les immigrants le monopole du mal et les Québécois, le francophone, le monopole du bien. Je pense que de ce point de vue, les vilains défauts qui traversent le cœur humain sont présents dans toutes les cultures.
Merci Mathieu Bocoté.
Mon grand plaisir.
Merci Bastien Gagnon La France à la réalisation. Merci à Philippe Seguin au montage. C'était On parle d'argent, une production Cube Radio. À la prochaine.